Change mon cœur, Seigneur.
Votre méditation quotidienne.
Amis auditeurs, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? C'est un réel plaisir pour moi en tout cas d'être là et partager cette méditation tous les jours. Nous sommes le vendredi 11 mars et je vous souhaite la bienvenue dans votre méditation quotidienne. Aujourd'hui est un jour spécial à plus d'un titre. J'aime ce jour car il m'annonce le repos du sabbat. Je l'aime aussi car c'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis soirs dès 20h en direct avec toute l'équipe. Ce sera une nouvelle occasion de témoigner et de partager tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors rendez-vous ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de la folie de Dieu. Mais puisse Dieu nous guider et nous éclairer à travers cette méditation. Le poster était choquant, mais le message parfaitement clair. Quelqu'un avait dessiné la silhouette d'un individu dont la tête était inclinée et les mains jointes, manifestement en train de prier. Le tableau suivant présentait le même individu dans la même position de prière. La seule différence était la silhouette voûtée et âgé. Sur le dernier tableau apparaissait un squelette étendu sur une table. Une légende disait « Pourquoi prier et attendre que Dieu résolve vos problèmes ?» Abandonnant derrière moi ce poster, je traversais le campus de l'université de Boise State où je suivais quelques cours. Je ne me souviens plus de la publicité entourant cette affiche, mais je sais qu'elle avait été placée là par un groupe d'athées du campus n'ayant pas une opinion très élevée de la prière. Pour eux, la prière était une pure folie. J'ai fait certaines choses dans ma vie qui parurent insensées à certains, nous dit l'auteur. Mais je n'oublierai jamais les jours où notre chorale d'église dut chanter dans une ville qui était un repère de drogués et de coupe-gorge, la plus malfamée de Los Angeles. On était au début des années 80 et la drogue à la mode se nommait le PCP. Dans un quartier de la ville surnommé la jungle, il y avait une ruelle bordée d'immeubles, renommée pour son lourd trafic de drogue. Le diable avait revendiqué ce petit bout de Californie, aussi la plupart des gens censés se tenaient éloignés de ce lieu de perdition. Tous, à part un jeune prédicateur adventiste et les membres de la chorale Maranatha. Dieu avait fait naître dans le cœur de ce prédicateur renégat le désir d'envahir un territoire ennemi et d'y apporter un peu de lumière. Il avait de bonnes relations avec les KDEI, l'une des stations de radio noire les plus populaires de Los Angeles. La station avait accepté d'envoyer une grande unité mobile à Sherm Alley, donc la ville où nous étions, afin de couvrir ce service de culte en direct. Un événement. Mon père, directeur de la chorale, accepta de donner un concert gospel et de prêter main forte à la prédication de la parole. Quel souvenir ! Nous avons chanté à la gloire de Dieu sur le bitume maculé de graisse de Sherm Alley, à l'ombre de puissantes armes d'assaut tenues par des meilleurs tireurs de l'escadron de police de la ville, postés sur le toit de l'immeuble. Grâce à la camionnette de la station de radio, d'un prédicateur armé de sa Bible et d'une chorale, Dieu permit qu'un rayon de lumière pénètre dans cette jungle. Pour la première fois, les résidents descendirent dans la rue et écoutèrent ce message de réconfort, d'espérance et d'amour. Durant les 2 heures que dura notre prestation, il n'y eut pas de drogue vendue, ni de coups de fusil tirés. Notre initiative fut considérée comme une pure folie pour ceux de l'extérieur, les policiers y compris d'ailleurs. En y repensant bien, je serais tenté de penser la même chose maintenant. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, verset 27. Je ne sais pas pour toi, mais parfois la prière me semble être quelque chose d'insensé. Je crois qu'il serait juste d'admettre que la prière peut parfois nous sembler précaire et inefficace. Lorsque nous prions, nous épanchons avec éloquence et passion nos âmes devant Dieu. Nous ajoutons même une pointe de jeûne pour prouver à Dieu combien consciencieux nous sommes. Nous poussons autrui à nous suivre dans la prière et revendiquons chacune des promesses divines. Mais nous n'obtenons aucun résultat, aucune amélioration. Alors nous nous relevons un peu stupides d'avoir gaspillé un temps si précieux et recherchons une solution personnelle pour apaiser notre tourment. Nous avons tous éprouvé de l'amertume devant l'évidence d'une prière inexaucée. J'ai cruellement ressenti ce sentiment lors des obsèques de ma belle-mère. Dès que le diagnostic fut établi, j'ai supplié Dieu de la guérir. Cela dura 5 ans. J'avais forgé de puissants et solides arguments démontrant à Dieu pour quelles raisons elle devait être candidate à la guérison selon moi. Je savais que Dieu n'exauçait pas toutes les demandes de guérison, mais je le suppliais de faire d'elle une exception. Je connaissais certaines personnes ayant été guéries miraculeusement. Cela arrive. Je lui demandais qu'elle soit parmi celles-là. Mais je fus très ébranlé par son décès. Je trouvais que Dieu aurait pu être glorifié s'il l'avait guéri. Malgré mon éloquence, mes arguments et ma passion, la réponse fut non. Alors pourquoi prier? Le résultat semble si arbitraire. Nous gagnons parfois, mais il nous arrive de perdre. Certaines de nos prières sont exaucées et d'autres pas. Alors la grande question est, si Dieu connaît nos besoins avant que nous ne lui formulions, pourquoi prier? Pourquoi ne pas croire qu'il pourvoira à ce qu'il juge bon de faire et prendre la vie comme elle vient, tout simplement? Êtes-vous prêt à entendre la réponse? J'espère bien que oui, car elle est incroyablement simple. Il s'agit de l'un des éléments de base de cet ouvrage que nous lisons ensemble et d'un rouage clé permettant de nous humilier devant Dieu. Voici la réponse. Car Dieu nous a demandé de prier. Alors, pardonnez-moi, nous dit l'auteur, si cette réponse offense les plus intelligents d'entre nous. Mais c'est ainsi. Aussi fragile et insensée qu'elle puisse paraître, la prière est le moyen divinement choisi par Dieu pour nous permettre de coopérer avec lui afin de construire et d'étendre son royaume. Il est vrai qu'il connaît nos besoins avant même que nous ne lui demandions. Cependant, il désire que nous venions à lui et lui exprimions notre confiance en sa capacité de pourvoir à nos besoins. C'est en répondant à l'appel à la prière et en nous humiliant que nous occupons la position la plus inébranlable qui soit dans l'univers. Une position de total abandon et de soumission. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Le sentier de la gloire est celui de l'humiliation. Mourir, c'est vivre. Gagner, c'est perdre. Être faible, c'est être fort. Et admettre son dénuement, c'est posséder le royaume de Dieu. Rien n'est refusé à l'âme qui éprouve des besoins. Elle a un libre accès auprès de celui qui possède toute plénitude. Par la prière, nous étouffons notre superbe et reconnaissons que Dieu possède plus de puissance et qu'il peut infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Éphésiens 3, verset 20. Dieu agit de façon non orthodoxe. Ses méthodes nous paraissent tour à tour choquantes, surannées, illogiques. Certains diraient même qu'elles sont insensées. Lorsque Naaman, le fier général syrien, se présenta à Élie pour être guéri de la lèpre, il ne crut pas ses oreilles lorsqu'Élie lui dit de se plonger 7 fois dans les eaux boueuses du Jourdain. « Quel traitement stupide !» se disait-il. Pour cet énergique meneur d'hommes, cette cure paraissait dépassée. C'était insensé. Naaman était couvert de plaies. Les eaux polluées du Jourdain ne pourraient qu'infecter ses lésions cutanées. De plus, il est totalement impensable de guérir de la lèpre en se plongeant dans de l'eau. Il avait déjà pris de nombreux bains dans de l'eau pure et son état ne s'était pas amélioré. Alors pourquoi cette fois et pourquoi ici dans le Jourdain? C'était totalement irrationnel. Mais Naaman obéit à l'ordre insensé de Dieu. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il put, et il fut pur, pardon. 2 Rois 5, verset 14. Dieu aime se servir des éléments insensés du monde pour confondre les sages. Il se sert du bâton d'un berger pour libérer une nation d'esclaves et soumettre un empire invincible. Il a placé la mâchoire d'un âne entre les mains d'un naziréen herculéen pour massacrer les 1000 meilleurs soldats philistins. Juges 15, verset 15. Il s'est servi de la fronde d'un jeune berger et de 5 galets pour se débarrasser d'un géant qui avait paralysé de peur toute une armée israélite. Et maintenant, ce grand Dieu de l'univers, accomplissant tant de choses insensées, nous demande à vous, à moi, à trois amis auditeurs, de nous humilier et de prier. Allons-nous le faire? Si Dieu nous avait demandé d'accomplir de grandes choses très compliquées, relevant de la grande technologie et de la haute stratégie dans le domaine de l'évangélisation, et qui révolutionnerait tout, nous le ferions immédiatement. Mais au contraire, il nous demande, comme à Naaman, de nous plonger 7 fois dans le Jourdain, de faire 7 fois le tour de Jéricho et de solliciter le rocher pour qu'il nous offre de l'eau. Il te demande d'accomplir ce qui te paraît inefficace, illogique et suranné. Il te demande de prier. Le moment est venu d'agir selon la volonté de Dieu. Je sais que parfois il semble que rien ne se produit et que la prière est une perte de temps. Cependant, il n'y a jamais, jamais de gaspillage lorsque nous obéissons à Dieu. Nous sommes partis à la pêche, entre guillemets, toute la nuit et n'avons rien ramené. Mais selon la requête de Jésus, jetons nos filets du bon côté de la barque. Faisons-le à sa façon une fois de plus. Prions et voyons ce qu'il adviendra. Nous pourrons recevoir bien plus que ce que notre fragile filet de la foi peut contenir. Aujourd'hui, nous désirons croire que Dieu agit dans la prière, même lorsque nous pensons que ce n'est pas le cas. Alors, humilions nos cœurs devant lui et réclamons-lui cette confiance en lui qu'il désire. Prions ensemble. Père, nous voici à tes pieds aujourd'hui et nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous accordes une fois de plus, alors que nous ne sommes pas dignes. Mais rends-nous dignes dans le sang précieux de Jésus. Aujourd'hui, une fois de plus, tu nous enseignes. Tu parles à nos cœurs par ton esprit. Et nous comprenons, Seigneur, que notre intelligence n'est pas ton intelligence, que nos voix ne sont pas tes voix, que nos pensées ne sont pas tes pensées. Et lorsque nous pensons que la prière est inefficace, tu nous demandes simplement de te faire confiance, de nous agenouiller, et de faire monter vers toi une prière. Père, enseigne-nous cette confiance inébranlable dans la prière. Enseigne-nous, Seigneur, à te prier comme tu le désires. Père, nous reconnaissons que nous avons passé beaucoup de temps à faire monter des prières préfaites, des phrases toutes faites. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de nous apprendre à prier d'un cœur sincère, à faire monter vers toi, Seigneur, nos cœurs, nos pensées, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous préoccupe, et à te laisser agir dans nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons perdu suffisamment de temps. Seigneur, je te prie en ce matin, afin que tu réalises cela dans nos vies. Touche nos cœurs, transforme-nous, et par ton esprit, guide-nous sur le sentier de la vie. Merci Père pour ce formidable outil qu'est la prière. Merci Père car nous avons la certitude, par la foi, que tu nous entends. Et que tu répondras selon ta volonté. Merci Père de nous avoir entendus ce matin une fois de plus. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié, non pas que nous soyons dignes, mais au nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. C'était Change mon cœur, Seigneur, votre méditation quotidienne tous les jours, 8h30, 19h et tout de suite en replay.
Tout au fond de mon cœur, oui, tu m'as délivré, Jésus, tu as calmé.